Le constat qu'il faut faire, qui est pesant, c'est que la réponse à la crise, c'est d'abord le repli sur soi plutôt que l'innovation. Bon, on est dans cette situation-là, malheureusement, et c'est ça qu'il faut constater. En complément de ce que vient de dire Myriam, on a un nettoyage de tête à faire. Le nettoyage de tête à faire est le suivant, c'est qu'il faut abandonner une vision infantile d'un appel à un père tout-puissant. Donc, ce père tout-puissant qui serait un accord international, etc., et dans lequel on bien se mettrait à l'abri de cet accord international. Il faut aujourd'hui qu'on rentre dans notre tête, qu'on est dans une gouvernance du monde multi-échelle, et que les échelles supérieures, si on peut les appeler encore supérieures, globaux, dans la pyramide de construction des pouvoirs, l'échelle d'en haut n'avance que si les échelles d'en bas ont testé, ont mis en œuvre des choses, ont montré la faisabilité des choses. Bon. Et donc on est dans une gouvernance multi-échelle. Bien sûr, l'échelle d'en bas, à un moment, elle a besoin de droits. Elle a besoin de règles collectives, elle a besoin d'accords internationaux. On peut pas avancer sans des accords internationaux. Mais les accords internationaux vont pas naître comme ça du claquement de doigts sans qu'il y ait de l'initiative territoriale et de l'initiative de la part des entreprises. Donc il faut qu'on fasse ce nettoyage de tête. Et là, je voudrais insister sur un point, c'est qu'à côté de la lecture pyramidale du monde, de la représentation, de la hiérarchie des pouvoirs, il y a quand même une énorme transformation qui est dans la dernière décennie, qui est la toile vivante horizontale du monde. À la fois les entreprises qui sont présentes partout, les ONG qui sont présentes partout, mais maintenant les réseaux sociaux, Internet, qui fait qu'il y a une capacité d'auto-organisation horizontale, et la coopération décentralisée fait partie de ça, une capacité d'auto-organisation horizontale qui change les choses. Et c'est pas seulement important d'un point de vue opérationnel, c'est important d'un point de vue politique. C'est-à-dire que la gouvernance du monde, en gros, un pouvoir mondial sera démocratique que s'il y a un contre-pouvoir. Et la capacité d'auto-organisation des acteurs, y compris dans la contestation d'une certaine façon, au plan international, est nécessaire pour que ce pouvoir soit démocratique. Donc vous voyez que cette nécessité d'un fonctionnement multi-échelle, c'est à ça qu'on est renvoyé. Et de ce point de vue-là, comprendre ça est un progrès. Enfin, c'est...
D'autres questions, témoignages ou manières,
si je t'en prie. Je suis d'accord avec Pierre, enfin, je suis toujours d'accord avec Pierre, mais là, juste un bémol, j'entends bien, on ne peut pas...
Et je suis en bonne compagnie.
On ne peut pas attendre d'eux, on ne peut pas tout attendre d'eux, mais au regard du contexte, c'est-à-dire de l'urgence, à un moment... Enfin, certaines collectivités, certains pays avancent, on fait la démonstration des chemins empruntés, on fait la démonstration de la pertinence des solutions, et y arrive, parce que certains territoires, gouvernements, locaux, etc., arrivent à un moment où on est obligé de faire de briques et de broc pour changer de braquet, pour massifier les opérations, et en attendant, papa et maman, État ou monde s'y mettent un peu d'huile dans les rouages sur le financement, sur... donner du pouvoir aussi aux gouvernements locaux, c'est-à-dire on ne peut pas dire à la fois ça doit venir dans les gouvernements locaux, alors gouvernements sont larges, les régions, etc. On doit s'y mettre et pas leur donner le pouvoir. Alors je n'ai pas ramené à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, mais c'est un bon exemple. On n'a strictement aucun pouvoir, contrairement au Länder allemand, ni réglementaire, ni normatif, ni même finance, ni même fiscaux. Donc à un moment, parce que c'est ça, qu'on arrivait, pas au bout du bout, mais on arrivait à un moment où on est en capacité localement de changer d'échelle, de changer de braquet, mais où on a des moyens de nain. Et ça, c'est pas admissible. Et qui plus est, au regard de l'urgence. Et moi, ma crainte, qu'on avait un peu senti à Copenhague, que Copenhague avait avait un super résultat. C'était un échec, mais le vrai résultat, c'était la mobilisation massive de la société civile, incluant les gouvernements locaux, qui ont eu la parole. Et la société tout entière a été mobilisée. C'était vraiment un très grand rassemblement au sens large du terme. L'échec de papa et maman a fait que les enfants se sont barrés. Ils sont démobilisés. Et moi, ma crainte aujourd'hui, après Copenhague, après des Nagoya qui ne sont pas connus du grand public, même s'il y a des avancées, et après Rio, dans ce contexte d'urgence, et pas seulement environnemental, pas seulement biodiversitaire, pas seulement climatique, mais social et en termes de pauvreté, c'est que ça démobilise. Et juste pour illustrer ça, la parole, le bon mot de François Hollande hier est une forme de, peut-être en décalage, mais d'illustration de ça, en parlant de la société civile ou du monde associatif, organisé ou désorganisé, attention, elle peut être trop désorganisée. Quand je dis dans la société civile, c'est inclus les collectivités locales. Et ça peut être très, très, très décourageant, ce genre de... Alors quand on regarde de près, tu as raison, sur les leviers, des vrais leviers, et même en région, sur les ODD, on peut faire quelque chose de vraiment très constructif et partager ça, et le faire de manière coopérative avec les pays du Sud dont on est en coopération. Ça va être génial, ça peut être génial, ça va encore des pistes de solutions. Mais à un moment, attention à ne pas démobiliser. Là, pour le coup, il faut vraiment être militant, qu'on soit élu ou associatif, il faut vraiment être militant.
Oui, à l'interface entre ce que je disais et ce que tu disais, il y a quand même des responsabilités du gouvernement français. C'est-à-dire que là, la question qui va se poser, c'est est-ce que ces affaires-là vont rentrer dans un nouveau mouvement de décentralisation ? C'est quand même une vraie question. Et qu'est-ce que l'Union européenne, collectivement, va faire pour renforcer ces capacités d'action dont tu parles? Ça ne se joue pas qu'au niveau de l'ONU. Se joue au niveau intermédiaire, et quand même largement au niveau intermédiaire pour le moment. Et donc on va être renvoyé, et c'était très bien que François Hollande vienne ici, parce que, disons les choses très franchement, il n'était pas spontanément attentif à ces questions-là, et on l'a vécu, ceux qui ont un petit peu d'expérience de ces choses-là, souvent, la grande majorité des ministres comprennent les sujets en voyant le baston international. Ils comprennent que ces sujets-là sont importants à partir du moment où ils voient l'énorme difficulté de la négociation internationale, les écarts de développement, etc., et qu'on peut pas, on pourra pas avancer sans aborder cette question-là. Et encore une fois, ces questions d'environnement et ces questions de développement durable sont aujourd'hui les niveaux de négociation internationaux majeurs. Bon. Et donc, que François Hollande vienne et qu'il voit ça, juste en revenant du G20, etc., qu'il soit plongé dans l'international, ce qui n'était pas son histoire personnelle jusqu'à présent, est utile à sa propre progression. En tout cas, ce qu'il a dit hier soir au pavillon France allait assez clairement, allait clairement dans ce sens-là.
Est-ce que vous pensez qu'un rideau plus 30 a du sens ? Est-ce qu'il faut le rapprocher ?
Pour faire un bilan, peut-être.
On vient de vous répondre. Si on attend papa moment sans bouger, alors, le Rio plus 30, ça va être un enterrement de première. Si à l'inverse, on se met au taf, sachant déjà qu'on a un énorme rendez-vous en 2015, déjà. On a un rendez-vous en 2015 sur les ODD, sur les OMD, sur l'affaire du droit de la mer. Et puis, tous ces mécanismes de renforcement des Nations Unies dont on a parlé, etc., bon, on va faire le point en 2015 où on en sera. Il faut qu'on ait... L'histoire des négociations internationales, c'est qu'il faut que les échéances soient rapprochées.
Et le climat,
sinon, ça s'endort. Donc, il faut en permanence être sous le fouet, sous l'obligation de se remettre au boulot. Et de ce point de vue-là, la négociation climat avec son pas annuel, alors il avance un petit pas, c'est énorme, mais il faut comprendre, je dirais, le télescopage dans les têtes que représentent ces négociations internationales. Vous avez des gens qui, dans le conflit de ces négociations, sont bousculés, sont bouleversés, font des progrès considérables. Les Africains reconnaissent aujourd'hui qu'ils n'auront pas de développement sans développement sobre en carbone. C'est pas facile à avaler un truc pareil. Pas facile. Donc il aura fallu des années de négociations pour qu'ils comprennent l'ampleur du sujet, quoi. Bon, donc 2030, bah écoutez, ça va dépendre de vous.
Vas-y, Jacques. Oui, pour la question environnementale en Nord-Pas-de-Calais, elle doit aussi, dans le cadre de la gouvernance, se travaillé étroitement entre le Conseil général du Nord, le Conseil général du Pas-de-Calais, le Conseil régional. Nous avons un PRDESS, un plan régional de développement de l'économie sociale et
sociale, interco.
Où nous sommes autour de la table, entre le conseiller général délégué à l'ESS. Je siège dans cette instance qui avance, pas assez vite, jamais assez vite, qui avance. Il y a depuis l'accession de Patrick Kanner au Conseil général du Nord, une conférence stratégique régulière du Pilet, de Kanner, Percheron, sur les grandes questions. La question environnementale devra aussi en faire partie pour avancer, parce que si sur les quelques 3 milliards d'euros de budget du Conseil général, 60% sont consacrés à l'action sociale, il n'empêche que nous faisons un certain nombre de choses, pas assez, jamais assez, sur la question de l'environnement, mais encore faut-il qu'il y ait, je dirais, beaucoup plus de travail. Enfin, nous avons une politique espace naturel sensible liée à la taxe sur les permis de construire. Il y a une trame verte et plus régionale. Comment, à un moment donné, on met beaucoup plus en synergie? Ça se fait, mais en tant que maire et président de la commission de développement durable d'une communauté de communes, je ne dis pas assez. Ça se fait trop l'un à côté de l'autre. Et parfois, les élus font leur marché. Tiens, je vais peut-être aller de ce côté-là, Fédère plus région. Tiens, à un moment donné, je vais aller de ce côté-là, espace naturel sensible. Il n'y a pas encore assez de coordination. Et puisqu'on parle d'une nécessité de gouvernance sur les territoires, encore faudrait-il que nous montrions l'exemple et que dans le cadre du débriefing et du travail qui doit arriver, il faut qu'avec nos collègues du Conseil général du Pas-de-Calais, du Nord, et que ça devienne une délégation environnementale fortement, je dirais, coordonnée par la région. Moi, je n'y vois aucun inconvénient, mais il y a vraiment cette synergie à trouver entre nos différentes institutions.
Je rassure, sur ce qui n'était pas possible avant certaines élections, elle l'est devenue. Et l'ouvrage est sur le métier.
Je voudrais compléter ce que vous venez de dire en réintroduisant le social. On n'a pas regardé la composante environnementale du social. Trop peu.
Logement, FSL et tout ça.
Ah oui, et puis la question de la précarité énergétique, etc. On voit bien aujourd'hui que la marge de manœuvre de l'amélioration des conditions de vie des gens se fait dans l'optimisation de l'utilisation d'un certain nombre de ressources, à commencer par les ressources énergétiques et donc la requalification des logements, etc. Donc là, il y a un travail, un chantier commun entre l'environnement et social, et là qui pour le coup est le cœur du métier des départements.
J'ai une question, Pierre Radan, c'est par rapport à ces objectifs de développement durable là, que les pays pourraient se fixer, comment on a vu que tout était imbriqué, en fait, toutes les négociations sont imbriquées, l'économique, l'environnemental, donc comment est-ce qu'on met ça en cohérence avec les autres négociations parallèlement qui ont lieu à l'OMC et qui font que les poulets de France vont concurrencer les poulets du Sénégal, etc. Et tant qu'il n'y a pas une réflexion aussi globale sur la régulation de l'économie, sur la régulation de la finance et sur la possibilité des États à lever une fiscalité mondiale et puis aussi locale, parce que de plus en plus on leur interdit fiscalité qui pourrait permettre l'émergence de l'organisation de la société civile aussi. Donc, comment est-ce qu'on met tout ça un peu en cohérence?
Écoutez, honnêtement, je ne sais pas. Ma première partie sur la faiblesse du texte, pour le coup, ne nous y aide pas. On voit bien que le progrès qu'on attend tous, c'est l'intégration de l'OMC à l'intérieur du système des Nations Unies. Qu'il y ait, sur les questions environnementales et d'autres, je dirais, une obligation par les États du respect de leurs engagements, parce que là, pour l'instant, les États signent des engagements qu'ils ne respectent pas. Il n'y a pas de sanctions. Bon. Et donc, tant qu'il n'y a pas un mécanisme proportionné de sanctions, comme il existe à l'intérieur de l'Union européenne, hein, au niveau supranational, bon. Tant qu'on n'a pas ce truc-là, que le seul organisme qui ait la possibilité de sanctionner, c'est l'OMC, avec son organisme de règlement des différends, mais qui est extérieur au système des Nations Unies, et que tout ce qui se passe sur l'environnement, aujourd'hui, n'a aucune capacité de sanction. Et c'est là-dessus que la négociation climat bute. Bon, donc, l'état actuel de ce qui ressort de Rio, c'est qu'on n'a aucun instrument pour aller dans cette pour aller dans cette direction-là de façon substantielle, dans le sens de ce que vous exprimez. Donc il va falloir construire ces objectifs de développement durable, sachant que ce chantier-là reste en friche, avec l'idée qu'une fois qu'on aura donné confiance dans la capacité de transformation, cet étage-là pourra peut-être se construire. Le constat qu'on fait quand même aujourd'hui, c'est que tout le monde vient à la négociation avec l'idée que s'il fait quelques concessions que ce soit, ça va représenter pour lui un fardeau ou une perte. Personne ne se met dans l'idée que le fait de passer un accord international va aller dans le sens d'un mieux-être, de la réduction des difficultés. Les pays s'arc-boutent sur les intérêts nationaux anciens, comme si c'était ça qui allait les protéger des difficultés du monde. Alors, moi j'aurais tendance là-dessus à être empirique. On ne pourra produire du droit qu'à partir du moment où il y aura des manifestations encourageantes d'un futur réussi. Et donc il faut, notamment sur le terrain, et là la discussion qu'on vient d'avoir par exemple sur le champ de compétences du département est intéressante, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver là aussi des poignées de réponses à la crise qui articulent du social, de l'environnemental, etc., qu'on voit qu'à ce moment-là, sur ces choses-là, on est capable de progresser. Et que, à travers cette construction, et là ça passe par ces affaires d'objectifs de développement durable, qu'à travers ce processus de construction, on esquisse les progrès possibles. Et qu'à ce moment-là, les pays se disent, j'ai plus intérêt à avancer dans cette direction-là que de rester coincé dans ma vision passéiste. Mais pour l'instant, le texte nous montre que les pays ne sont pas dans cette situation-là. Ils voient la violence du monde d'aujourd'hui et ils veulent rester dans le monde d'aujourd'hui.
Sauf que Pierre, c'est vrai, je suis d'accord et je milite pour que les collectivités locales poursuivent leurs efforts. Je sors du sommet mondial des villes de l'IPI à Belo Horizonte la semaine dernière. Il y a des exemples à travers toute la planète, quels que soient les pays, en développement, développés ou autres, de collectivités qui s'engagent fortement. Sauf que si on continue à s'engager comme ça et qu'on montre que c'est possible dans l'environnement dans lequel on est. Donc pourquoi les chefs d'État voudraient changer le paradigme dans lequel ils fonctionnent? Tant que le PIB restera la référence, et tu le dis, c'est la crise aujourd'hui, et on assiste à un repli sur soi, parce qu'on n'a pas encore imaginé, enfin personne n'ose imaginer mettre en place un autre critère que celui du PIB pour se sortir. Et à partir du moment où les décisions qui pourraient être prises d'une OME ou d'un engagement comme celui qui aurait pu être pris à Rio par des traités, par des conventions internationales, à partir du moment où il se dit ça va affecter mon PIB, donc ma croissance, donc ces règles-là, ça posera problème. Je pense qu'on aura du mal à s'en sortir. Donc, alors je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Il ne faut pas que les collectivités locales s'arrêtent, bien évidemment. On est là pour ça et pour essayer de définir ces objectifs de développement durable. Est-ce que ça va être les indicateurs de développement humain? Je pense que dans ce qui est décliné, ça peut être cela. Mais est-ce qu'ils seront acceptés au regard d'autres indicateurs tels que celui du PIB demain? Donc, est-ce qu'on a des chances d'aboutir à un accord en 2015, en 2020 ou en 2030 tant qu'on ne sortira pas de ce mode de vision du monde ou d'évolution du monde? Et je pense que là-dessus, c'est l'intérêt général pourtant, parce que les pays en développement, s'ils intègrent ces paramètres-là, ça les tirera vers le haut aussi. Ça les tirera vers le haut.
Alors, tu as raison, et moi, effectivement, j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure. Est mentionné dans le texte cette idée de nouveaux indicateurs. Mais là, c'est le même problème que pour les objectifs de développement durable. On ne peut pas définir les nouveaux indicateurs par en haut. On est obligé d'avoir un travail, bien sûr, descendant, mais on a aussi besoin d'un travail ascendant. Parce que on va pas passer. Quand on veut élargir cette affaire de PIB, tout n'est pas monétarisable. Il y a un certain nombre de progrès qui sont des progrès de nature qualitative. Comment et avec quelle pèselette On les compare à des éléments quantitatifs. Comment on va soustraire du PIB les éléments négatifs qu'il contient, qui constituent des échanges, des transactions financières, mais qui sont des transactions financières sur des destructions. Donc ce travail sur les indicateurs doit se faire dans la coopération Nord-Sud. Il ne peut pas être dicté du Nord vis-à-vis du Sud. Bon. Donc tu vois bien que dans la même réflexion, et la discussion qu'on avait avec les gens du ministère hier était justement celle-là, c'est que le travail sur les ODD doit se faire en même temps avec un travail sur les indicateurs.